Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag au carré sur Radio Imo. On est ravis d'être avec vous pour ce tout nouveau numéro. C'est une émission proposée par la lettre Mètre Carré. Et comme d'habitude, je suis avec Audrey Jourdain. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes rédactrice en chef justement du magazine La Lettre Mètre Carré. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'IMO, du résidentiel géré. Voilà, avec une belle demande toujours, mais des obstacles à franchir. On va faire le point avec nos invités, Audrey. Alors, qui sont nos invités aujourd'hui? Aujourd'hui, il s'agit de Jean-Baptiste Mortier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le PDG de The Boost Society. On vous connaît sur Radio Imo. Et puis, notre second invité est Patrick Viterbo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Brownfields. Avant de passer avec vous, monsieur, à la partie invité, on va écouter votre édito, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Nous le savons, les contours de l'habitat se redessinent à mesure que la société évolue. Eh bien, le marché des résidences gérées bénéficie particulièrement du phénomène depuis la crise sanitaire. La demande en France semble en effet exponentielle pour trois raisons. La première, le concept de l'immobilier géré répond aux enjeux sociétaux, les individus étant de plus en plus en quête d'expérience, de convivialité, de bien-être, de nature et de liberté. Deuxième raison, le concept apporte également une réponse aux enjeux démographiques liés à la hausse du nombre de seniors et d'étudiants. Enfin, le résidentiel géré contribue au renforcement du bien vieillir et de l'éducation qualitative souhaitée par le gouvernement. En conclusion, tout laisse à penser que le nombre de résidents gérés devrait se multiplier à vitesse grand V. Néanmoins, les exploitants et acteurs immobiliers doivent faire face à différentes problématiques freinant le développement du marché, comme par exemple l'augmentation des coûts d'exploitation, qui peut difficilement être compensée par le rehaussement des loyers, ou encore la pénurie d'actifs neufs. En tout état de cause, les investisseurs sont toujours autant sous le charme de l'immobilier géré. Son marché de l'investissement s'est contracté de seulement 15% en 2023, une chute hautement inférieure à celle de 60% constatée sur le marché du résidentiel en bloc.
Les invités du carré.
Alors justement, on parle de résidentiel géré avec nos deux invités. On va commencer avec vous, Patrick Viterbo. Donc vous êtes le président de Brownfields. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Brownfields à nos auditeurs ?
Volontiers. Brownfields est un investisseur et promoteur un peu particulier parce que depuis 15 ans, nous travaillons exclusivement à transformer des friches de toute nature, friches industrielles, actifs tertiaires qui ne correspondent plus à leur marché, friches hospitalières, friches commerciales. Voilà, donc la transformation de la ville sur la ville dont on parle beaucoup depuis quelques années, nous le pratiquons depuis 15 ans.
Et encore plus maintenant avec les annonces de Gabriel Attal.
Évidemment, mais on est assez heureux de voir que c'est maintenant une thématique centrale du marché de l'immobilier. Et nous sommes, avec un peu d'avance sur ce que souhaite le gouvernement, un opérateur qui désartificialise, c'est-à-dire que nous rendons plus à la nature chaque année que ce qu'on lui prend, puisqu'encore une fois, on n'intervient que sur des sites déjà artificialisés, oui, et que dans tous nos programmes, on est très attentif à restituer de la nature et de la biodiversité. Voilà, donc on est à la fois très soucieux des enjeux environnementaux, et puis évidemment un promoteur et investisseur en résidence gérée, on en parlera sans doute à l'instant.
Alors je rappelle donc juste pour nos auditeurs qu'il y a le dispositif ZAN, donc zéro artificialisation nette qui est en place, c'est de ce dont vous faites, ce à quoi vous faites référence, et du coup la surélévation, enfin la ville sur la ville aussi, ça fait partie, retrouver des friches, construire là où c'est déjà construit, donc ça fait partie des propositions du gouvernement pour aussi trouver des logements. Alors justement quand on parle de friches, ce que vous faites, j'imagine que ça prend plus de temps, un projet comme ça.
C'est plus long et assez clairement c'est plus risqué puisque quand on intervient sur ces sites à transformer en profondeur, on prend un risque environnemental. Hein, quand on achète par exemple l'ancien siège de Philips à Suresnes, qui est Gallieni, donc un emplacement magnifique en bord de Seine avec des vues sur le bois de Boulogne et Paris qui sont splendides, mais un immeuble en déshérence, vide depuis 15 ans, bourré d'amiante, ce qui était un obstacle important à son redéveloppement. Donc on a su estimer et apprécier les problématiques d'amiante, parce qu'on a des équipes spécialisées en interne dans ce domaine. On a su ensuite prendre le risque d'acheter cet immeuble qui était propriété d'une foncière étrangère, en n'ayant pas obtenu, au moment où nous avons fait cette acquisition, les autorisations de construire. Donc il fallait aussi, évidemment, en liaison avec la ville, convaincre d'un programme équilibré et pertinent pour ce site. Et cet équilibre, et ça va faire le lien évidemment avec le thème de résidentiel géré, il s'est trouvé à travers une programmation mixte comprenant du logement, un hôtel et une résidence de co-living, apportant finalement différents modes d'habiter dans un même espace. Et voilà, la conjonction de ce savoir-faire environnemental, d'une programmation accueillie de façon positive par la ville, permet au projet de sortir, et donc il est en construction, et cet ensemble sera livré dans maintenant 2 ans. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de la façon dont on arrive à reconstruire la ville sur la ville, mais en effet ce sont des projets notablement plus longs, et qui demande aussi des fonds propres importants, parce qu'il faut acheter, porter ces travaux et les immobiliser pendant des durées plus longues. Et c'est grâce à nos investisseurs qu'on peut supporter les montants de capitaux engagés importants dans ces opérations.
Alors justement, c'est qui vos investisseurs ?
Nos investisseurs, c'est la Banque des territoires de la Caisse des dépôts, donc il y a une composante public, semi-public parmi nos investisseurs, et puis une vingtaine d'investisseurs institutionnels français et belges, puisque nous travaillons également en Belgique.
Justement, c'est quoi la différence entre le marché belge et le marché français ?
Alors, le marché belge est un petit marché quand on le compare à la taille du marché français. Il est très dynamique, il a des règles qui sont, je pense, intéressantes pour trouver l'inspiration peut-être dans certains domaines.
En Wallonie comme en Flandre.
Oui. Je prends 2 exemples. En Belgique, quand un immeuble est vide plus d'un an, la taxe foncière, l'équivalent de la taxe foncière, triple. Donc il y a une incitation assez forte à travers cette mécanique pour les propriétaires à faire bouger des actifs inutilisés ou mal utilisés. Bon, donc ça peut être une piste. Autre piste intéressante en Belgique, quand vous organisez des occupations temporaires pour, par exemple, de l'accueil de réfugiés, parce que pendant les phases de portage, de transformation des actifs, pendant qu'on instruit des permis, on peut utiliser des immeubles à l'accueil de réfugiés, vous êtes exonéré, là aussi, pendant plusieurs années de taxes. Voilà, il y a toute une série de dispositions qui sont assez astucieuses dans le dispositif belge. Et la Belgique, bien avant la France, avait inventé le système de ce qu'on appelle en France le tiers demandeur, c'est-à-dire de transférer la responsabilité de la dépollution à un opérateur immobilier, ce que nous faisons maintenant en France depuis 2016.
Alors, tout à l'heure, vous parliez des critères de recherche. Justement, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Quels sont vos critères
Alors,
de recherche ?
Parlons de résidence gérée, puisque c'est le thème. Hein. Nous produisons en 2000 à 2500 logements par an, et entre 4 et 6 résidences gérées chaque année. Et nous croyons beaucoup à l'habitat géré, parce que ça a été dit tout à l'heure dans l'éditorial, c'est effectivement une réponse à des besoins, à des nouveaux modes de vie qui sont très pressants et très prégnants. Donc, nous les développons en tant que promoteurs avec parfois des sorties en partenariat avec des investisseurs exploitants, comme mon voisin, avec qui nous avons un très très beau projet dans le 18e arrondissement de Paris. Il nous arrive de le vendre au détail, et il nous arrive aussi de les garder dans notre foncière qui s'appelle foncière des générations.
D'accord.
Et foncière des générations veut dire qu'on adresse les différentes catégories de résidences gérées qui couvrent toutes les étapes de la vie, donc de la résidence étudiante, en passant par la résidence de co-living destinée plutôt à des jeunes actifs et jusqu'aux résidences seniors.
D'accord. Comment vous voyez évoluer les valeurs vénales et locatives de l'immobilier géré, justement ?
Alors, les valeurs locatives, mais mon voisin en parlera mieux que moi, je crois qu'il est important de les garder raisonnables et raisonnées, parce que, en effet, le métier d'exploitant est un métier qui vit avec des petites marges, doit faire face à des hausses de ses coûts, alors que, évidemment, le client final peut pas voir ses loyers s'envoler.
Ah oui.
Voilà. Donc, nous, dans nos raisonnements, il est toujours important pour nous de vérifier que, voilà, on ne cède pas un vertige de surévaluer des loyers, parce que ça n'est pas garantir la pérennité d'une opération. Et sur les valeurs vénales, je crois qu'on s'attend à... Bon, il y a eu Il y a une forme de bulle avant la hausse des taux. Il y a maintenant une contre-réaction qui est, je pense, un peu excessive, et on s'attend à une forme de stabilisation à un niveau intermédiaire qui va venir, je pense, dans les 6 mois qui viennent.
D'accord. Donc vous tablez sur 6 mois à peu près. Dernière question. Donc vous avez parlé de la mobilisation des fonds en début de projet, en amont. Quelles sont les problématiques actuelles que vous rencontrez, justement, les autres problématiques pour des projets?
Écoutez, on a, je pense, la chance d'avoir des projets qui répondent à un vrai besoin social, celui de reconstruire la ville sur la ville. On a la deuxième chance d'avoir des investisseurs qui sont fidèles parce qu'ils voient dans ce que nous faisons un vrai impact. Et aujourd'hui, ça n'est plus une clause de style pour les grands investisseurs institutionnels. L'impact fait vraiment partie de la stratégie. Il faut bien sûr délivrer des performances financières dans les normes du marché, mais avoir cette valeur ajoutée d'un impact très fort que nous fournissons à la fois dans la transformation urbaine et puis dans Foncière des Générations, encore une fois, qui sont des résidences gérées qui ont toute une histoire de transformation de sites importantes, c'est pour eux une réelle valeur ajoutée. Donc on est armé pour résister aux difficultés assez temporaires du marché de l'investissement, et Dieu merci, nos projets avancent.
Donc un de vos partenaires, c'est The Boost Society. Jean-Baptiste Mortier, donc vous êtes le PDG. Alors pouvez-vous présenter The Boost Society à nos auditeurs?
Oui, bien sûr. C'est un groupe d'hospitalité en général. Après l'hospitalité, on peut appeler ça de l'hospitalité et du co-living. Donc on peut dire aussi c'est un groupe de co-living. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Et c'est du co-living qui s'adresse aux étudiants, qui s'adresse aux jeunes actifs, avec deux marques clés pour les étudiants et Hive pour les jeunes actifs, et peut-être demain aux familles. Donc c'est du résidentiel géré. Moi, le co-living, pour moi, ça englobe ce résidentiel géré, puisque le co-living, c'est vivre ensemble, donc avoir son espace privé et ensuite des espaces partagés pour vivre en communauté. Donc on développe des lieux de vie en communauté, mais avec pour chacun son espace privatif, soit un studio, soit un petit appart, soit une coloc. Et ça, sur des cibles un petit peu différentes qui vont pouvoir peut-être s'étendre demain encore à d'autres cibles que les trois que je viens de citer.
Alors justement, les espaces partagés, c'est quoi par exemple? C'est une cuisine?
Alors les espaces partagés, en général, dans son espace privatif et dans son studio, on a sa cuisine, sa salle de bain et ses sanitaires. Ça, c'était l'analyse qu'on a faite au départ, qui n'était pas forcément l'analyse anglo-saxonne d'ailleurs, hein, où les Anglais ont une cuisine partagée à chaque étage pour une douzaine ou une quinzaine de studios. Nous, sont des espaces qui sont privatifs, et en revanche au rez-de-chaussée, dans le socle de l'immeuble, là il y a des espaces partagés qui sont plus généreux, salle de sport, salle de cinéma, ce qu'on appelle nous le hub, c'est-à-dire c'est tout cet espace de partage et de vie en communauté dont les jeunes raffolent aujourd'hui, qui sont designés, qui offrent des services un petit peu différents si on parle de l'étudiant, si on parle de jeunes actifs. Voilà, c'est aussi des univers de confort qui sont un peu différents. On a une laverie pour la partie étudiante, mais on a sa machine à laver quand on est jeune actif, parce qu'on a passé peut-être une étape dans sa vie et qu'on n'a plus envie nécessairement de descendre avec son linge au rez-de-chaussée. Donc, ce sont des espaces qui évoluent et qui changent. Pour les familles, on a évidemment des idées. Avoir une crèche captive, avoir une grande cuisine centrale dans laquelle on peut recevoir une vingtaine d'amis pour faire, je ne sais pas, la communion de son fils. Et donc ça, c'est des espaces qu'on ne peut pas forcément avoir dans son petit appartement au studio de 50 à 80 mètres carrés, donc on mettra à disposition des familles. Donc c'est très très évolutif, et voilà, ça représente aujourd'hui leur mode de vie qui a considérablement évolué.
Oui, vous faites face à cette nouvelle demande, hein, qu'on a vu exploser depuis les confinements essentiellement, et justement vous parliez du lancement de votre nouvelle marque Hive. Donc là, c'est plutôt pour les jeunes actifs, c'est ce que vous disiez. Comment vous avez senti ça? C'est vrai que c'était très étudiant à la base. Maintenant, les jeunes actifs s'y mettent. C'est quoi? C'est le travail nomade? C'est le télétravail? Qu'est-ce qui a engendré tout ça?
Exactement ça, le travail nomade et le télétravail. Mais donc, ça impose quand même d'être très agile sur l'offre, hein, puisque un jeune actif aujourd'hui ne vit pas et n'a pas le même rapport à l'entreprise que celui qu'il avait avant le Covid. Hein, donc, il n'est plus forcément 3 jours ou 5 jours par semaine au siège de de son entreprise. Il peut y être 3 jours par semaine, ça veut dire qu'il peut habiter un petit peu plus loin, mais ça veut dire que quand il vient au siège de son entreprise, il doit se loger. Et donc, l'offre que nous, on a développée pour ces jeunes actifs, c'est évidemment une offre autour de ces espaces de vie, mais c'est aussi autour de durées de séjour qui sont flexibles et qui permettent d'adresser ces 3 jours par semaine ou 2 nuits ou 3 nuits par semaine dont aura besoin un jeune actif qui habitera un petit peu plus loin de son travail. C'est aussi donc une offre qui intéresse énormément les entreprises parce que être capable de recruter en offrant 3 jours de télétravail par semaine, c'est être capable aussi d'offrir une solution de logement. Je ne dis pas de la payer, mais au moins de savoir qu'elle existe. Et donc nous, on a la conviction que cette offre pour les jeunes actifs réimaginée complètement depuis le Covid sera un vecteur de croissance des entreprises et de recrutement des entreprises qui vont pouvoir offrir ces solutions de travail avec le logement qui va avec.
Bien sûr, et on a vu d'ailleurs que la crise du logement impacte le marché du travail. Des entreprises n'arrivent pas à recruter parce qu'il n'y a pas de logement autour de...
Considérablement, et puis ça s'est inversé très très rapidement. Il y a quelques années, il y avait... alors, ce n'était pas le plein emploi, mais on arrivait à des taux de chômage qui étaient très bas et le recrutement était très difficile. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile de recruter, mais il faut quand même avoir des arguments. Et je pense que l'argument du logement, c'est ce que moi j'essaye de faire passer comme bien message sûr. Au gouvernement. L'argument du logement, il est fondamental pour la croissance des entreprises françaises. On peut dire absolument tout ce qu'on veut, mais si on n'est pas capable de loger un jeune qui monte sa boîte, qui n'a pas forcément les moyens de se payer un loyer très élevé, si on n'est pas capable de loger quand on a 2 jours de télétravail par semaine ces jeunes recrues, elles ne viendront pas. Alors où est-ce qu'elles iront ? Peut-être qu'elles continueront à aller un petit peu à l'étranger. Moi, je pense qu'il faut se poser cette question du logement. Alors, la grande phrase, on va aller chercher tous les logements avec les dents, c'est très bien. Mais la phrase d'après qui dit on va lancer un plan 30 000 logements quand il en manque 500 000 chaque début d'année en France, ça me semble un tout petit peu limité.
C'était une des propositions, je rappelle à nos auditeurs, de Gabriel Attal, parmi celles qu'il a dit dans des territoires test. Justement, vous parliez des sociétés. Est-ce que vous avez fait lancé des partenariats avec des entreprises?
Bien sûr. Dans la résidence Hive qu'on a ouverte à Toulouse, la Beige, qui est dans une zone d'activité à côté de Toulouse, on a des partenariats avec les entreprises du coin, avec Airbus, avec Berger Levrault, avec plein d'entreprises autour qui ont bien compris en fait que pour Airbus, quand on tranche nous ces durées de séjour et qu'ils sont capables, lorsqu'ils forment nouveaux ingénieurs qui viennent de l'étranger pour leurs usines à l'étranger, qui viennent les former, ils ont besoin de 3 semaines, loger quelqu'un pendant 3 semaines. C'est pas facile d'aller à l'hôtel. Les hôtels sont même d'ailleurs pas forcément destinés pour ça. Quand on se retrouve 3 semaines par semaine dans un logement, dans un espace résidentiel, métier qui fait la part belle aussi à votre quotidien avec une salle de sport, bien entendu, ces entreprises en sont très friandes. Mais cette mixité de durée de séjour, elle est absolument clé pour cette population des jeunes actifs.
Et justement, c'est quoi la durée de séjour en moyenne alors ?
Alors, on tranche la durée de séjour entre court séjour, moyen séjour, long séjour. Je parle un petit peu comme si on était dans la santé, dans une clinique chirurgicale, mais c'est vraiment ça. Et puis après, vous avez le court séjour récurrent, qui sont ces fameux 2 nuits ou 3 nuits par semaine dont on a besoin quand on habite un petit peu plus loin. Et donc, nous, on tranche ces taux d'occupation en analysant parfaitement le marché. C'est là où, en fait, le métier, évidemment, d'investisseur est important, mais le métier d'opérateur, il est encore plus clé. Donc, les hommes et les femmes qui sont chez nous sont la pierre angulaire depuis 7 ans de la réussite, je le dis comme ça, du groupe. On avait une résidence à Caen en début 2017, on en a 31 aujourd'hui, 5 en Espagne, 15 en construction un peu partout. Donc c'est vraiment cette ingénierie des hommes et des femmes d'opérateurs. Alors c'est pas qu'on nous appelle souvent plateforme, pour moi la plateforme c'est une structure de déploiement de capitaux, nous on est un vrai groupe d'hospitalité ou un vrai groupe de co-living, avec des opérateurs et des gens qui réfléchissent à la manière dont on gère, à la manière dont on accompagne ces moments de vie qui sont soit des moments pour les étudiants d'apprentissage de l'autonomie, soit qui sont des moments de transition de vie pour certains, quand on est expat et qu'on est content de venir 3 mois dans une résidence comme ça et de rencontrer une communauté avant de se réinstaller à Paris ou dans une ville de province, c'est des moments qui vous permettent bien entendu de vivre un petit peu différemment. Et donc c'est vraiment la partie opérationnelle qui est absolument fondamentale, et donc les hommes et les femmes qui font ces structures opérationnelles qui sont clés dans le dispositif.
Alors là, vous avez évoqué Airbus. Vous avez d'autres projets comme ça en cours à nous dire ?
Je ne peux pas vous en... On en a beaucoup. Si vous regardez là où on va s'installer, notamment à Courbevoie ou évidemment Paris 18, on a des discussions avec les entreprises qui sont autour, probablement dans les prochaines semaines, avec Warner qui est juste à côté de cette résidence qu'on va ouvrir dans ce quartier-là, ou ou avec la FAD d'ailleurs, qui est Porte de Clignancourt. Tout ça, c'est un espèce de hub, j'appellerais pas ça un hub musical, mais Warner, c'est de la musique. La FAD de Clignancourt aussi a des cours de musique, donc on va essayer de faire quelque chose qui correspond aussi au quartier. Mais tout ça, c'est des discussions qu'on a eues depuis longtemps avec la ville, sous l'impulsion des promoteurs qui sont, eux, à la manette de la manière dont ce quartier doit être réinventé. Et donc, le partenariat qu'on fait avec eux, c'est vraiment en symbiose entre ce que leur demandent les élus, les donneurs d'ordre quelque part qui veulent réinventer ce quartier, ce que nous, on est capable de faire avec les entreprises du coin. On ne raisonne pas pour nous.
Ouais, c'est toutes les parties prenantes qui...
C'est toutes les parties prenantes. Et puis, on a le loisir, nous, parce qu'on a AXA IM qui est notre actionnaire, de raisonner dans le temps. Un peu comme le disait Patrick, c'est de la pérennité, c'est de la vision dans le temps. On a un actionnaire de très long terme, on est propriétaire de nos murs, on n'a pas vocation à les vendre, ni à la découpe, ni à l'unité, résidence par résidence. Donc c'est une vraie vision en fait qu'on essaye de donner, de symbiose avec les promoteurs, à ces quartiers qui doivent être réinventés. On a restructuré aussi des bâtiments de bureaux, deux tours de bureaux à Gentilly qui sont devenus une résidence étudiante et une résidence jeune actif, qui était donc aussi de la restructuration, donc aussi de la décarbonation. C'était aussi des tours qui étaient amiantés. Donc on participe vraiment. C'est pour ça que les partenariats, le partenariat notamment avec Brownfield, c'est quelque chose qui nous parle dans l'esprit et dans les faits. On est vraiment dans des lignes totalement parallèles et très cohérentes.
Alors, vous intervenez aussi dans d'autres pays européens. Et justement, quelles sont les différences avec la France, marché espagnol, par exemple?
Le marché espagnol est un peu différent parce que sont principalement des facultés. Il y a très peu d'écoles de commerce, comme on peut les connaître en France avec ces groupes d'écoles de commerce qui se sont développées. Donc, ce sont souvent des concessions qui sont faites sur des terrains de facultés. Ce sont toujours des partenariats qui sont faits avec les facultés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer une résidence étudiante ou un résidentiel géré. Là, on parle aujourd'hui de résidence étudiante, parce que là, c'est le créneau qu'on développe en Espagne, sans des partenariats avec les facultés.
D'accord.
Qui sont...
Donc, c'est plus dur à aller chercher, ça?
C'est pas plus dur parce qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une vraie demande et qu'il y a un vrai déficit d'offres. En revanche, il faut bien leur expliquer qu'on est dans la même ligne que ce que eux veulent faire avec leur université. Alors, il y a de plus en plus d'étrangers qui vont travailler dans ces universités en Espagne. On est là sur une opération à Grenade. On en a deux en construction à Valence et Cadiz. On est dans des villes tiers 2-3 aujourd'hui en Espagne. On est à Murcia, Leida, Castellón, Albacete. Donc, c'est pas des villes principales. On vient d'acheter une résidence à Barcelone. On va probablement s'installer assez rapidement à Madrid, bien entendu, mais c'est un environnement qui est un petit peu différent, avec une vraie offre d'éducation, une vraie offre universitaire dans toutes ces villes, et pas simplement dans les très grandes villes espagnoles. Donc il y a un marché qui est beaucoup plus ouvert, mais il a fallu l'apprendre et comprendre ce fonctionnement avec les universités, et notamment sur ces systèmes de concession.
Alors, même question pour vous, quelles sont les problématiques actuelles auxquelles vous faites face ?
Écoutez, j'ai un peu de mal à vous répondre ça, mais le résidentiel géré aujourd'hui, on en a assez peu. La capacité de restructurer des bureaux et de les convertir, on sait le faire, et donc on a des opportunités toujours plus importantes de pouvoir le faire.
Alors, on sait faire, mais pas partout. On sait faire, mais pas partout. Il y a certains...
On sait faire, mais pas partout, mais nous, enfin, je vous parle de ces deux tours de bureaux à Gentilly, on a d'autres projets un peu partout autour de Paris. On sait aménager. Encore une fois, c'est vraiment la patte de l'homme, c'est-à-dire prendre un immeuble et se dire comment est-ce qu'on peut, dans cet immeuble de bureau qui est un peu particulier, qui a été fait pour des bureaux, qui n'a pas forcément les profondeurs, pas forcément les coins qui nous vont, pas forcément l'aménagement facile, avec des trames hyper évidentes. Vous viendrez voir notre résidence à Gentilly.
Avec
on a
plaisir.
Fait des petites cuisines dans des renfoncements qui sont hyper sympas. Et on a réussi à utiliser même le souplesse de cette résidence pour faire une salle de cinéma, pour faire des espaces de coworking avec des petites meurtrières extrêmement sympathiques. Enfin, c'est aussi ça la patte, quoi. La restructuration, c'est pas simplement se dire c'est facile, c'est travailler, c'est un peu comme
c'est de la recherche, en fait.
Défricher des zones ou dépolluer des zones. C'est pas un travail qui est simple. Et
sûr.
Donc, nous, on est à la manette de ça.
C'est
parce
un
qu'on a, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai travail de programmation. Et donc, Bon, on a, y a bien sûr des sujets aujourd'hui qui sont liés au permis, et les promoteurs en sont les premiers touchés, entre guillemets, des villes qui doivent se pousser et se forcer à, alors se forcer à transformer un logement en résidentiel, c'est devoir faire des infrastructures publiques, elles n'ont pas forcément les finances pour ça, il faudrait que l'État puisse incentiver, comme le disait Patrick tout à l'heure, puisse incentiver ces villes qui ont envie d'aller vers la reconversion, vers la transformation. Voilà, c'est, on espère qu'à l'approche des municipales, quand je dis à l'approche, c'est dans 2 ans hein, et quelques, mais on sait que c'est dans 6 mois, il va y avoir à nouveau un espèce de frein sur les permis. Ouais. C'est pas ça qui va nous aider. Donc, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Voilà la difficulté,
je
pense.
Nos auditeurs qui ne comprennent pas, c'est que les maires se font taper dessus par les habitants depuis quelques années quand il y a des nouveaux permis de construire.
Donc, en fait, la principale difficulté, c'est que tous les acteurs tirent dans le même sens. Si aujourd'hui, l'État dit on veut reconvertir, que tout le monde se mette dans la philosophie et dans l'état d'esprit de vouloir reconvertir et qu'on dépasse les barrières réglementaires ou même politico-politicienne de un maire qui construit est un maire qui ne sera pas élu. Ouais. Voilà. Mmh. Il faut dépasser ça, sinon les 2 années qui viennent vont être absolument dramatiques.
En tout cas, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Bon, pour l'instant, je vous rejoins, c'est que des paroles, mais au moins, ça va en ce sens sur la reconversion, par exemple, des bureaux en logement.
Oui, bien sûr. Mais après, à nouveau, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas reconvertir 300 000 mètres carrés vides à l'entrée de Bagnolet en logement, parce que la mairie n'a pas les moyens de faire les infrastructures publiques, les écoles, les crèches, les centres des impôts, ainsi de suite, qui iront avec ces nouveaux habitants. Donc, il va falloir mettre aussi un petit peu d'incentive et d'envie de la part de nos dirigeants pour que ces villes soient ultra moteurs et n'aient pas peur de ne pas pouvoir assumer cette nouvelle part de logement.
Eh bien, merci beaucoup à nos deux invités passionnés et pour cette émission aussi passionnante. Merci Patrick Viterbo, merci à Jean-Baptiste Mortier, merci Audrey Jourdain pour cette émission. Et je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré que vous pouvez retrouver évidemment. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un tout prochain numéro du Mag au Carré sur Radio Immo.
Le Mag au Carré en partenariat avec la lettre Mètre Carré.